Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Pour bien comprendre le contexte politique, le volet judiciaire et les ramifications de l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, il faudra lire l'enquête d'Anton Rouget, le journaliste de Mediapart qui a révélé ce scandale en septembre 2022. On pourra facilement se laisser prendre à lire les 30 articles du dossier réuni par le journal, tant cette affaire est hallucinante. Assez vite, Anton Rouget l'a comparé au compromat, une méthode du KGB toujours utilisée aujourd'hui en Russie pour déconsidérer, voire détruire un adversaire, c'est-à-dire un chantage exercé à l'aide de photos ou de vidéos qui montrent la personne dans une situation compromettante, le plus souvent sexuelle. Ici, ça ne se passe pas à Saint-Pétersbourg, mais à Saint-Étienne. Et si l'affaire n'est pas nouvelle, ce qui m'a frappé, je dois dire, en me rendant sur place récemment, c'est que le maire de Saint-Étienne, mis en cause, en examen et certes encore présumé innocent, n'a non seulement pas démissionné, mais qu'il jouit même, chez certains Stéphanois, d'une popularité surprenante. Dans Les Pieds sur Terre, nous n'avons pas refait toute l'enquête d'Anton Rouget, mais pour vous donner une idée de l'affaire, nous sommes simplement allés écouter la version de la victime du compromat, Gilles Artigue, élu centriste, connu notamment pour ses positions conservatrices sur les questions de société et sur la famille en particulier. Nous vous livrons sa version telle qu'il l'a racontée à Claudia Prolongeau et à peu près telle qu'il l'a toujours racontée.
Je suis Gilles Artigue, j'ai 60 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. J'ai débuté mon activité professionnelle comme professeur de mathématiques dans un établissement stéphanois après avoir fait des études à l'université de Saint-Étienne. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années et parallèlement à cela, je me suis présenté aux élections municipales en 1995 parce que j'ai toujours été passionné de politique. J'ai toujours appartenu à des formations qui se situaient au centre droit et j'ai plus particulièrement été proche de l'actuel Premier ministre François Bayrou. Ça m'a permis d'aller partout et de me faire connaître très vite. Quand sont arrivées les élections de 2002 pour les députés, il était naturel que je sois le candidat de la majorité, à l'époque UDF-RPR, et j'ai été élu. Un parcours politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il y a souvent des tensions entre les personnes. C'est ce qui s'est passé en 2007 où le maire de l'époque avait envoyé une candidate de son camp pour me faire perdre. Donc ça a été rude, mais c'était de la politique et en aucun cas ça peut être comparé à ce que j'ai vécu par la suite, qui relève d'un tout autre domaine. En 2008, il y a eu des dissensions entre la droite et le centre. Et en 2014, nous avons tiré les leçons des divisions de 2008. Et avec Gaël Perdriau, nous avons décidé de faire liste commune. Nous avons mené une belle campagne dans l'Union. Et en mars 2014, nous avons été élus. L'accord que nous avions scellé prévoyait que Gaël Perdriau soit maire, que je devienne son premier adjoint et que j'avais la possibilité de présenter sur cette liste une douzaine de mes amis centristes. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a bien respecté les accords tels qu'ils avaient été signés et a commencé le mandat. Moi, je me réjouissais et je pensais à l'époque, naïvement, que Gaël Perdriau serait reconnaissant, puisqu'il est clair que sans moi et sans mes amis, il n'aurait jamais pu être élu maire. Dans l'équipe municipale qui a été élue en 2014, il y a nombre de mes amis, des proches, et puis des personnes qui avaient rejoint le mouvement centriste quelques années auparavant, dont Samy Kéfi-Jérôme, qui venait du Parti Socialiste et qui très vite, dans notre mouvement, avait pris de la place. C'était quelqu'un plutôt de brillant, qui intervenait dans nos débats, qui était un instituteur, un professeur des écoles connu dans son quartier et qui est devenu adjoint à l'éducation une fois l'élection passée. Et c'est vrai que nous avions des relations amicales. Samy Kéfi-Jérôme avait gagné ma confiance. Il venait même chez moi. Il s'était rendu familier de mes enfants, qui aimaient beaucoup en particulier son gros chien. On avait des dossiers aussi en commun que nous suivions au niveau municipal. Et en particulier, sur un quartier de notre ville, nous avions le projet de construire un parc éco-sciences. Et comme il était adjoint à l'éducation et que moi j'étais chargé de la politique de la ville et adjoint au maire, il était naturel que nous allions ensemble défendre ce dossier à Paris, au siège de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Début 2015, la mairie avait loué deux chambres dans un hôtel parisien. Donc la réunion a eu lieu. Il était environ 18 heures lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, donc c'était trop tôt pour aller dîner. Donc chacun est allé dans sa chambre pour se reposer. Je me souviens que moi j'avais appelé mon épouse, j'avais fait un petit compte-rendu de la journée et j'attendais que Samy Kéfi-Jérôme me rappelle. Et à ma grande surprise, il ne le faisait pas, donc ça a bien duré plus d'une heure. Et puis à un moment donné, il m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, je suis prêt, vous pouvez venir me chercher dans ma chambre. Donc il me donne le numéro de sa chambre. Je crois qu'on était à des étages différents. Moi, j'étais au-dessus de lui. Je prends donc mon vêtement. Nous étions en hiver. Je vais dans sa chambre et là, à ma grande surprise, il y a une personne. Samy Kéfi-Jérôme me dit, regardez, j'ai un ami qui est venu me dire bonjour, un ami que j'ai connu à Paris, et ça me fait bien plaisir de le revoir. Si vous voulez vous asseoir, on peut, avant d'aller dîner, discuter avec lui. Bon, moi, j'étais en confiance, j'avais pas de raison de me méfier de Samy Kéfi-Jérôme. Je savais qu'il avait vécu à Paris avec son compagnon, et j'ai pas trouvé bizarre qu'il puisse me présenter un de ses amis. Je me souviens qu'il m'a fait boire, à plusieurs reprises, du champagne. Bon, je l'ai bu volontiers, alors que je suis pas particulièrement porté sur l'alcool, mais bon, c'était plutôt sympathique, on discutait, on échangeait. Et là, j'avoue ne plus me souvenir de rien. J'ai supposé par la suite qu'il y avait peut-être eu une substance dans ce qui m'avait été donné de boire, mais je n'en aurai jamais la preuve. Le lendemain, j'étais quand même un peu vaseux, quoi. J'ai dit quelque chose à Samy Kéfi-Jérôme du style « hier, on a pris une bonne cuite », entre guillemets, comme si j'avais effectivement bu plus que de raison. Mais on n'est pas allé au-delà et nous sommes rentrés. Et pendant des mois, on a continué à avoir des relations amicales, à porter des dossiers ensemble, sans que je puisse me douter de quoi que ce soit. Plus d'un an et demi après le déplacement à Paris, Samy Kéfi-Jérôme me demande de passer chez lui pour que nous examinions un dossier municipal. Il me demande donc de m'installer dans son salon et c'est là qu'il me dit « Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer ». Et suit environ 2 minutes d'un montage avec un titre évocateur « In bed with Gilles Artigue » qui indique qu'il y a eu cette rencontre dans cette chambre d'hôtel. Alors, il y a des allusions à mes activités passées, au fait que j'ai été président d'une association de jeunes chrétiens, que je suis adjoint au maire, et puis donc il apparaît des textes sur l'écran du style « Que fait Gilles Artigue quand il va à Paris ? Qu'est-ce qu'il fait aux frais du contribuable ?» Et là, on me voit parler, on aperçoit du champagne, l'autre homme, on le voit de dos. L'image s'arrête et il est écrit la suite au prochain numéro. Donc là, évidemment, je demande à Samy Kéfi-Jérôme ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il me dit, je vous ai filmé, la personne qui qu'il a donc invité était un escort boy qu'il a payé. Il me dit, avec cette vidéo, je vous tiens en laisse. Nous vous tenons en laisse. Et pour nous, c'est une assurance politique. Il me dit que je vais devoir faire tout ce qu'il va me demander. Il est clair que ce que je vois sur la vidéo n'a rien de très choquant, parce que je n'avais évidemment pas vu la totalité de la vidéo, mais le petit film de 2 minutes laissait supposer effectivement peut-être un rapport sexuel. J'imagine, parce qu'il me le dit, parce que c'est écrit, qu'il y a eu des choses beaucoup plus graves et que ces choses pourraient ressortir et nuire à ma réputation. Je n'avais pas de la vidéo, je n'avais pas non plus connaissance de tout le cheminement, donc j'étais dans une impasse totale et je voulais pas que ma famille soit au courant que je m'étais retrouvé dans une chambre d'hôtel à Paris avec un escort boy. Même si je n'avais pas voulu cela, je culpabilisais d'une manière terrible. Et c'est là justement que le piège est vraiment sordide, parce que il fonctionne fortement, en me disant il y a une vidéo plus longue, elle va être balancée à n'importe comment et ça va être pour moi quelque chose de terrible. Pendant quelques jours, je suis totalement anéanti, j'ai l'impression que toute ma vie s'arrête, que je perds tout mon sang, quoi. C'est une sensation de trahison, parce que Samy qui vit Jérôme, c'était quelqu'un proche de nous, pas simplement de moi, mais aussi de ma famille. Et donc, assez naturellement, j'en parle au maire, Gaël Perdriot. C'était au mois de novembre. Je lui explique ce que m'a fait Samy qui est fils Jérôme. Et à ma grande surprise, il ne dit rien. Il m'écoute sagement, et puis ça en reste là. Quelques mois plus tard, lors d'une réunion de notre conseil de majorité, il y a un dossier sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Il le prend plutôt mal, puisqu'à la sortie, c'est plutôt mon point de vue qui l'emporte dans la discussion. Et alors que tous les collègues quittent la salle, il vient vers moi et il me dit clairement « Ce que tu m'as fait là, tu ne me le feras plus, sinon je diffuse ce que tu sais. » Et à ce moment-là, eh bien, c'est un coup supplémentaire sur ma tête, parce que je me rends compte que non seulement le maire ne me défendra pas, ne sanctionnera pas cet élu qui m'a piégé, mais qu'en plus, il va se servir de tout cela pour me faire chanter et faire en sorte que mon influence politique soit vraiment moindre, voire nulle. Gaël Perdriot aimait bien, lorsque je devais prendre la parole, me faire perdre tous mes moyens en me donnant le prénom de l'escorte, en disant « Alors Théo, il va bien Théo, tu l'as revu Théo ?» Et ça, évidemment, ça me plongeait de nouveau dans une angoisse qui faisait que, bon, bah, forcément, mon intervention était évidemment moins bonne. Je dors très peu pendant toute cette période. Je me dis « Mais comment tu vas pouvoir t'en sortir ?» Aller voir la police, tout dénoncer, ça n'était pas la bonne solution, parce que je me disais que personne ne m'aurait cru. Donc là, j'ai vraiment pensé mettre fin à mes jours. Et puis, bon, je me suis dit que si j'en arrivais à ce geste fatal, il fallait quand même que je laisse une preuve à ma famille. Et c'est là que j'ai décidé d'enregistrer. Enregistré dans le bureau du maire.
Gilles, je vous l'ai déjà dit, si le fait que j'aille en tôle,
oui,
vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille
pédale
sur le
retour. Mais j'en ai pas du tout envie.
Eh bien,
vous allez en tôle.
Je n'en
j'ai dit,
respectez-moi.
Aucun problème. Respectez-moi.
Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage.
Oui, bien sûr.
C'est l'exécution.
Une fois que les choses sont sur la table, il est mort.
Si vous faites ça, oui, l'ensemble des parents, des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants, recevront une copie du film. Et je pense que vos enfants s'en remettront pas.
Ne vous trompez pas, c'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel, de la même manière. Je n'ai aucune foi ni voix.
Et là, ce que je reçois en retour dépasse tout ce qu'on peut penser. Il me dit, effectivement, je t'ai menacé, je le referai s'il le faut. Et puis quand c'est sur les réseaux sociaux... c'est une exécution. Et puis son directeur de cabinet est odieux, on l'entend très clairement dire qu'il n'a ni foi ni loi, qu'il agit comme un criminel. Il me disait que si il allait en prison parce que je passais pour une vieille pédale sur le retour, ben, il n'en avait rien à faire. Et puis alors, surtout, il dit une phrase qui me fait encore frémir, qui me donne la chair de poule. Il me dit, si vous bougez trop, si vous dénoncez tout cela, je vais adresser à tous les parents des enfants qui sont dans la même classe que les vôtres une copie de la vidéo. Et il termine en disant « Vos enfants ne s'en remettront pas ». Ma famille voit bien que je dépéris, évidemment. Je me levais la nuit, j'étais angoissé. Je m'éteignais petit à petit aussi au niveau politique. Mes amis ne me reconnaissaient pas. J'étais plutôt quelqu'un qui allait de l'avant, qui n'avait pas peur de m'engager. Là, c'est vrai qu'on voyait que je me rangeais toujours derrière les décisions du maire, d'une manière servile, et personne vraiment me reconnaissait. Je n'étais plus le même, contestablement. Je vivais un peu comme un automate, c'est clair. Mon effacement était de plus en plus fort jusqu'à l'élection de 2020, où là, effectivement, Gaël Perdriau avait besoin de moi pour être réélu. Donc j'ai été reconduit comme premier adjoint. La campagne s'était plutôt bien passée, il avait plutôt été sympa avec moi. Par contre, dès la réélection, c'est reparti de plus belle. Et là, il voulait m'éliminer complètement. Et ça a commencé par le fait qu'il ne voulait plus que je sois son premier adjoint. Donc j'ai été obligé de démissionner. Il ne m'a pas laissé le choix. Moi je lui disais, mais comment les gens vont comprendre ça? Il m'a dit, ben écoute, tu racontes n'importe quoi, tu dis que tu es malade, c'est pas le problème. Je dis, mais je peux pas dire une chose pareille. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de parler d'un projet professionnel. Projet professionnel que je n'avais pas au moment où je l'ai affirmé en plein conseil municipal.
Pour retourner dans l'enseignement?
J'ai un projet personnel que je garde pour moi pour l'instant. Et il faut d'ailleurs que j'ai un peu de temps pour le construire. C'est pas un grand événement, c'est une volonté à l'âge que j'ai de faire autre chose, tout en restant bien sûr sur des missions qui me plaisent à la ville et à la métropole.
Je n'avais plus beaucoup de délégations au niveau de la mairie, mais malgré tout, il m'en a laissé quelques-unes. Il m'a laissé la délégation des cimetières et des activités funéraires. Et on m'a répété que devant plusieurs de ses amis, il avait dit « Artigues, on lui donne les cimetières parce qu'il est mort ». C'est là que j'ai réactivé une pensée que j'avais eue de faire autre chose, une mission dans l'enseignement. Et j'ai été recruté, après avoir donc postulé, comme directeur diocésain de l'enseignement catholique sur Albi. Je pensais tourner la page de la vie politique, mais avec toujours ce poids sur le ventre, en me disant « ils sont tellement mauvais, méchants, qu'ils n'hésiteront pas à me détruire dans ma nouvelle vie et à envoyer cette vidéo à mon nouvel employeur ». En juin 2022, j'ai reçu un SMS d'un journaliste de Mediapart, Antoine Rouget, me disant qu'il souhaitait me rencontrer. Je pensais qu'il y avait une enquête peut-être sur Gaël Perdriau, puisqu'il y avait cette possibilité qu'il devienne ministre. Donc je me disais peut-être qu'un média national s'intéresse à lui. Donc je n'ai pas répondu et à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être pour cette affaire, bien évidemment. Ensuite, il s'est fait de plus en plus pressant. Et puis un jour, il se fait très explicite. Il me dit, écoutez, il faut vraiment que je vous voie parce que j'ai des preuves du piège qui vous a été tendu. Et moi, je vous assure que je prendrai le temps de faire en sorte que l'affaire soit présentée en vérité. Donc là, évidemment, je comprends de quoi il s'agit. Catastrophe, je me dis, mais cette affaire va me poursuivre décidément jusqu'à la fin de mes jours. Et donc je décide de le rencontrer. Nous nous voyons à Paris, place de la Bastille. Et là, il m'explique qu'il y a effectivement une personne qui a tout balancé, qu'il a la vidéo, qu'il y a eu du détournement d'argent. Alors ça, c'est quelque chose que, effectivement, je ne savais pas, et qu'il envisage d'en faire un papier. Sur le contenu de la vidéo, il me dit peu de choses, parce que je pense qu'il ne veut pas non plus dévoiler toutes ses sources. Il me dit qu'il aimerait bien avoir ma version. Il a confirmation de ma bouche qu'il y a bien eu un piège. Bon, après, on a une discussion, je cherche un peu à le culpabiliser en lui disant, quelque part, ces gens-là vont triompher. Si vous sortez votre papier, toute cette histoire va devenir publique et la honte va me retomber dessus, c'est exactement ce qu'il voulait. Et ce à quoi il me dit, oui, peut-être, mais en tant que journaliste, ayant connaissance de cette affaire, je me dois de la dénoncer. Surtout parce qu'il y a eu du détournement d'argent public et puis parce que ce sont des pratiques d'hommes politiques qui n'ont pas leur place dans un mandat électif. Donc c'est de mon devoir d'en parler. Alors j'ai su par la suite que pour lui, ça n'avait pas été si simple que cela et qu'il s'était effectivement posé un cas de conscience en disant « voilà, c'est vrai que les conséquences pour cet homme vont être quand même terribles ». Pour sa réputation, pour sa vie, pour sa famille. Je sais qu'il y a eu un débat, même au sein de sa rédaction, et que peut-être jusqu'au dernier moment, il s'était posé la question de dénoncer ou pas l'affaire. L'escorte, c'est la deuxième victime dans cette affaire. D'ailleurs, Antoine Rouget, le journaliste de Mediapart, a retrouvé sa trace, a pu l'interviewer, et c'est d'ailleurs ce qui a aussi confirmé qu'il s'était vraiment passé quelque chose, parce que ce garçon n'était pas, entre guillemets, dans le marigot politique stéphanois. Il était totalement outré aussi qu'on l'ait utilisé pour faire chanter quelqu'un. Le mois de juillet se passe. Bon, évidemment, moi, je ne vis plus. Je passe l'été avec ma famille. On me voit très mal, mais on pense peut-être que c'est ma nouvelle vie qui m'inquiète. Je vais donc à Albi pour m'installer. J'y vais avec mon épouse. On monte des meubles au premier étage du lieu que je vais habiter. Et moi, je me disais, ben voilà, ces meubles, tu les montes aujourd'hui. Demain, tu vas les redescendre parce que bon, il va se passer quelque chose, quoi. Je sais qu'à la rentrée, ça va être terrible. Bon. Ce jour-là, le 21 août, je décide d'en parler à mon épouse, pour la première fois. Et je lui dis, voilà, ben je me suis fait piéger par Samy, et quelqu'un l'a dénoncé, ça s'est su. Et là, pour elle, évidemment, c'est un choc terrible. Mais à ma grande surprise, au lieu de me condamner, elle a cette attitude exemplaire de dire, ben écoute... tu es victime, on va se battre ensemble et on va pas se laisser faire. Je serai à tes côtés, toute la famille sera à tes côtés. Je suis allé l'expliquer aussi à mes enfants, qui étaient très tristes pour moi, pour ce que j'avais vécu pendant toutes ces années. Et on décide tout de suite de rencontrer l'évêque d'Albi, celui qui m'avait recruté. Et là aussi, à notre grande surprise, cet homme a tout de suite dit « Mais écoutez, vous avez été recruté sur la base de vos compétences, on a besoin de vous, vous n'y êtes pour rien, vous êtes une victime, vous n'allez pas subir une double peine, donc on se battra, on expliquera les choses et voilà. » Le 26 août, à 13h, l'article est sorti. Et là, ça a été une bombe, quoi. Au niveau stéphanois, tout le monde s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» J'ai reçu des témoignages très positifs, de gens qui me soutenaient. Le lendemain de la publication, il y avait une cérémonie commémorative à Saint-Étienne, où évidemment le maire Gaël Perdriau était présent, où il a été entouré de journalistes qui lui demandaient des explications. Et là, bah, il a été odieux, disant « je ne sais pas ce que c'est que cette affaire, je ne sais pas si c'est une partouze ou un gangbang ». Il n'a eu aucune parole amicale, ni pour moi, ni pour ma famille. Donc j'ai compris qu'il allait continuer à chercher à me salir à travers cette affaire. Et c'est ce qu'il a fait dans les premiers instants de la révélation, où il laissait croire que j'avais une vie dissolue et bon, que certains de ses proches relayaient.
Je ne ferai pas d'autres commentaires.
Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est avec un autre homme ?
Madame, je vous dis qu'à ce stade, je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. À ce stade, je ne connais pas ni les mœurs des personnes citées, ni ce qui s'est passé dans cette soirée-là.
Mais dans les questions que vous posez à part, il n'évoque pas de relation homosexuelle, il évoque simplement une vidéo compromettante.
Je n'ai pas d'autres commentaires.
Il s'est donc passé 6 ans, au cours desquels j'ai vécu avec... cette épée de Damoclès, avec cette peur que cette vidéo soit diffusée sur la totalité de la vidéo. On a appris qu'il n'y avait eu qu'un massage, mais d'après la manière dont c'était présenté, je pouvais effectivement avoir peur de choses beaucoup plus graves. Aujourd'hui, je me partage entre Albi, où je suis directeur diocésain de l'enseignement catholique et où je suis très épanoui dans cette fonction, et ici, donc à Saint-Étienne, où je revois mon avocat. D'ailleurs, celui-ci m'a conseillé de garder mes mandats municipaux, parce qu'il n'y avait aucune raison que je démissionne. Dès lors que le maire lui-même reste en fonction, s'accroche. Je suis donc toujours en charge des cimetières. Je travaille régulièrement avec nos services, qui souffrent aussi... parce qu'à la ville de Saint-Étienne, les choses sont compliquées. Et j'arrive donc sans difficulté à porter mes mandats. Par contre, les médecins considèrent que je n'ai pas encore la force de retourner ni au conseil municipal, ni au conseil métropolitain pour me retrouver face à mon bourreau.
Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka seläs näkymättä. Iloinen taakka, vaik edessä ois enää yksi rasti. En tiedä jaksanko hautaan asti.
C'était Chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Louise André. Merci à Gilles Artigue, à l'équipe de France Bleu Saint-Étienne, à Vincent et Valérie croisés dans le TER. Je précise que le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, n'a pas souhaité répondre à nos questions, qu'il est toujours en poste mais a été exclu des LR en octobre 2022 et que 6 autres personnes sont mises en examen dans cette affaire que la plupart d'ailleurs ont reconnu les faits. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartig, Sébastien. Et plus d'informations, de liens, de contexte, ce sera sur la page des Pieds sur Terre, sur le site de France Culture.
Syyttä ainakaan, unohtakaa minut, tahdon olla yksin, synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina tuolla ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti, mut syvempää. En tiedä.
Jos mä lähden, sen teen vain itseni tähden.